L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Les battements de cœur de l'horloge sur la commode dans la chambre de Jen l'accompagnent vers son dernier voyage. Nous sommes le 18 juillet 1817, dans le Hampshire, en Angleterre. Il est tout juste 4 heures du matin. Dans quelques instants, l'une des romancières les plus célèbres de la littérature britannique quittera le monde des vivants, sautant dans la calèche tirée par Pégase pour rejoindre les cieux. Jane Austen, l'autrice de textes déjà passés à la postérité lors de son vivant, se meurt. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble l'histoire de ce destin exceptionnel dont les fils tissés par les moires sont composés d'or et de larmes. Un peu plus tôt, Éléonore, la dame de compagnie de Jane Austen, joue du piano tout près de l'âtre brûlant de la cheminée du petit salon, du Chopin. Madame Austen, depuis toujours, se nourrit de ses notes vives et fugaces. Des larmes, rondes, chaudes, coulent sur les joues d'Éléonore et viennent mourir dans les pointes de ses cheveux roux. Elle aussi a veillé toute la nuit, comme les autres. La pendule sur le buffet Empire qui se trouve là indique 3h20. Et c'est l'heure H de mon histoire. Les pleurs qu'elle entend chaque fois qu'elle arrête de jouer viennent d'en haut. Cela ne la rassure pas. Alors, elle décide de monter. Discrètement, comme une petite souris court vers son refuge, elle referme le couvercle de l'instrument et se dirige vers l'escalier. Les marches craquent. Premier étage. Ici se trouvent certains espaces communs et le bureau de Jane. Il lui faut encore gravir quelques marches pour enfin arriver presque sous les combles de la maison. Là, sur un divan, installé pour organiser la veillée, vient de s'endormir Mary Austen, la belle-sœur de Jane. En la voyant au chevet de celle qui l'emploie depuis des années, Éléonore ne peut retenir une moue. L'autrice n'aime guère cet écervelé qui a épousé son frère. Mais à quoi bon faire des histoires? Le dernier moment approche. Le doute n'est plus permis depuis longtemps. C'est à 17h qu'une nouvelle crise a saisi la romancière. Une douleur aux tempes insupportable, puis l'évanouissement. Moins de 15 minutes plus tard, son médecin était sur le pas de la porte. Son diagnostic fut immédiat. Un vaisseau sanguin s'est rompu dans la boîte crânienne de sa malade. Le pronostic est mauvais, comme à chaque fois qu'il quitte la maison depuis la fin du mois d'avril. Mais cette fois, son air grave a tétanisé Éléonore. Elle sursaute encore à l'évocation de cette pensée. À pas feutrés, elle se dirige vers le petit divan et reste plantée, debout, à côté. Elle a les yeux fixés sur la porte. Derrière, elle entend Cassandra pleurer. La sœur de la romancière est à bout de nerfs. Il est 3h30. La respiration haletante. La servante finit par réveiller la belle-sœur assoupie, qui se redresse d'un bond, comme prise en défaut. Elle fixe Éléonore en coin. Pas un mot ne sort de leur bouche. Ces deux femmes, aux antipodes l'une de l'autre, se jaugent et se regardent en chien de faïence. Soudain, un soupir derrière la porte de la chambre attire la vigilance de la servante qui, suspendue à l'espoir qu'on la fasse entrer, se tient prête. La femme sur le divan, elle aussi, a entendu cette respiration plus forte que les autres, comme si la malade commençait à chercher son air. Elle se meurt, se dit en son for intérieur horrifiée, la jeune Éléonore. Elle a sacrifié sa vie pour accompagner cette femme qui est son modèle depuis longtemps. Qui ne connaît pas Orgueil et Préjugés, son plus fameux roman? Qui ne l'admire pas parmi les femmes du pays pour son cran et son courage? Elle est connue alors même que ses œuvres sont publiées sous un nom d'emprunt, Alors que les hommes du royaume se gaussent encore de leur victoire sur Napoléon à Waterloo, que seule la testostérone est de mise dans les cercles les plus prisés, qu'ils soient littéraires, financiers ou politiques, Jane eut le courage de taper du poing sur la table. Elle a su imposer l'évidence que les femmes, dans bien des cas, peuvent avoir au moins autant de talent que les hommes. L'Angleterre du roi George n'apprécie guère. Eh bien, tant pis. Alors que sa vie s'achève derrière cette porte à peine fixée, à seulement un peu plus de 40 ans, Austin a créé bien des vocations sincères dans de nombreux cœurs féminins. Voilà donc son héritage. Avoir fait comprendre au soi-disant sexe faible qu'il pouvait se tenir debout, fier et sûr de ses talents et de sa destinée. Jane a admiré le combat de celles qui, comme Olympe de Gouges en France durant la Révolution française, se muèrent en héroïne prête à mourir sur l'échafaud. Elle a espéré un destin similaire pour son pays, mais le fruit ici n'était pas encore mûr. Cela viendra assurément. Sans elle, mais avec son œuvre en étendard. Stressée, jouant machinalement avec sa chevelure couleur feu, Éléonore se mord la lèvre, fort. Elle ne remarque même pas qu'elle saigne et qu'une fine goutte de sang vient s'égarer sur son menton. C'est à ce moment que s'élève la voix frêle et fatiguée de Cassandra qui l'appelle. La sœur de la mourante l'invite à entrer. Prenant une profonde inspiration, la jeune servante pénètre avec appréhension au cœur de l'histoire. Jane Austen est couchée sur son lit. Sa respiration est irrégulière. Elle est allongée de travers. Il y a 3 heures, elle a tenté de se lever, cherchant son air, déclamant à voix haute le nom de certains de ses personnages les plus célèbres. Elle était en plein délire. Sa sœur, avec grande peine, avait réussi à la recoucher tant bien que mal. Depuis lors, Jane dormait, bercée par les tics et les tacs de sa pendule, juste en face d'elle. Éléonore ne s'approche pas. Non, elle reste dans le coin entre la porte et le mur et attend. Tapie dans l'ombre, elle dit en silence au revoir à son héroïne. Elle a dévoré avec l'intérêt des esprits vifs tout ce qu'elle a pu écrire. Elle a particulièrement aimé s'arrêter sur les petites choses qu'elle y détaille et qui permettent d'apprécier les instants magiques de l'existence. Au dehors, les oiseaux commencent à chanter. La journée sera belle. Le soleil va briller et réchauffer les parquets et les tentures de la maison. Jane adorait ce temps. Il lui donnait l'inspiration. Mais le râle, qui maintenant sort de cette gorge, est pour sa jeune employée le signe que le lever du soleil amènera certainement l'épitaphe de l'autrice. Étouffée par le chagrin, serrant de toutes ses forces son jupon de travail dans ses mains, Éléonore ressent le besoin irrépressible de quitter la pièce. Elle s'éclipse discrètement. Cassandra ne la voit même pas partir. La tête posée sur les genoux de sa sœur, elle l'a veillée sans discontinuer, excepté une petite parenthèse de 2 heures depuis 18 heures. Elle est exténuée, mais ne peut se résoudre à la quitter. Elle a un pressentiment des mauvais jours, de ceux qui viennent avant que les choses se figent. La mort est en chemin. À 3h40, Jane se réveille en sursaut. Fiévreuse, transpirante, elle est calmée par sa sœur et replonge dans son sommeil, ultime refuge des malades en fin de vie. Mais avant de refermer les yeux pour la dernière fois, Jane Austen prononce à voix basse ces quelques mots. « Dieu, accorde-moi la patience. Prie pour moi, oh, prie pour moi. » Les tics et les tacs de la pendule, eux, se succèdent inlassablement et l'accompagnent vers le Styx, où le passeur l'attend. 20 minutes après ce dernier sursaut de vie, Jane expire. dans son dernier souffle, elle ouvre les yeux sur ce monde qu'elle a tant aimé. Dehors, les mésanges jouent et virevoltent autour des arbres de la propriété. Cassandra, avec le premier rayon du soleil à l'horizon, ferme les yeux de sa sœur bien-aimée. Éléonore, elle, est retournée jouer du piano, du Chopin, bien entendu. Avant de vous expliquer quelle terrible maladie a pu emporter l'une des romancières les plus talentueuses de l'Empire britannique du début du XIXe siècle, il convient de vous raconter la manière dont Jane Austen est devenue Jane Austen. Notre histoire, qui se situe au cœur de l'Angleterre bourgeoise et noble, commence à la Noël 1786. La future autrice est alors âgée de 11 ans à peine. Elle est de retour chez elle, au presbytère de Steventon. Oh, rien à voir avec la religion, non. Simplement, le père de Jane a profité d'une opportunité immobilière pour installer son couple au cœur de cette petite bourgade de quelques centaines d'âmes seulement. Entouré de prairies, de chevaux et de forêts, cet endroit est une sorte de paradis sur terre que les Austen tenteront de faire prospérer. Pour eux, le bonheur passe par les enfants. Quatre vont y naître, deux garçons puis deux filles. Jane est la dernière née en 1775. Une décennie plus tard, à la suite de péripéties plus folles les unes que les autres, les voilà, sa sœur Cassandra et elle, de retour à la maison. La berline qui les conduit à Steventon est une vieille caisse posée sur un essieu tiré par deux chevaux. Non pas que la situation financière de leur père soit difficile, non, mais il fallait vite faire revenir les filles à la maison. Et puis, les revenus dégagés par leur père depuis leur arrivée dans cette bourgade sont tout de même très modestes. Jane, le nez dans les étoiles, comme à son habitude, regarde défiler le paysage de la campagne anglaise, dessinant des formes plus ou moins réalistes dans la buée sur la vitre de la berline. Cassandra, elle lit. Oh, certainement une histoire à l'eau de rose, où un militaire doit partir pour les Indes et abandonner sa bien-aimée. La plus jeune des deux sœurs sourit. Elle déteste ces mièvreries qui ne passent aucun message de fond, si ce n'est celui que les femmes ne sont guidées que par leurs émotions. Et surtout, qu'elles sont dépendantes des hommes. La jeune fille a déjà des idées bien claires en tête à ce sujet. Et elle refuse le rôle de potiche. Ses bras frissonnent, l'atmosphère extérieure est glaciale. Et les fêtes de Noël, qui seront là dans quelques jours, pourraient bien se faire sous la neige cette année. L'un des deux chevaux de l'attelage hennit. Et pour seule réponse, le cocher, emmitouflé dans son manteau, grogne. Jane attrape une couverture qu'elle a laissée en face d'elle et la passe sur ses épaules. Mais remarquant que sa sœur, à l'autre bout de la banquette, grelotte, elle vient se coller à elle et partage tendrement le petit bout de lainage. Bon, après tout, qui sait? Il n'est peut-être pas si mauvais, ce roman à l'eau de rose. Jane et Cassandra sont de retour à la maison familiale après un long voyage destiné à parfaire leur éducation. 3 ans plus tôt, alors que Jane n'est encore qu'une fillette, elles ont été envoyées à Oxford par leur père afin d'y être formées par une femme aussi sévère que difficile à contenter. Cette vieille fille, issue des beaux quartiers de Londres, emmena les filles avec elle lors de son déménagement à Southampton. Ce fut beaucoup de changements en peu de temps pour deux petits êtres en devenir. À l'automne, une épidémie de typhus se déclare. Les deux sœurs tombent malades et Jane, déjà la plus fragile de la bande, manque de mourir. Retour à la case départ donc, à la maison. Elle y gagne du repos, certes, mais surtout, une reprise en main par son père de leur éducation. Il décide, une fois que Jane est rétablie, d'envoyer les deux inséparables à Reading, dans un pensionnat. Là, leur nouvelle préceptrice les effraie C'est une femme passionnée par le théâtre, mais dotée d'une jambe de bois qui claque à chaque pas sur les parquets de l'institution. Et il ne vaut mieux pas la mettre en rogne. Les deux filles resteront presque 2 ans durant lesquels Jen va se passionner pour le théâtre et le jeu scénique. Elles s'y plaisent beaucoup, pratiquant le français, l'orthographe, la danse, mais... Bientôt arrive ce mois de décembre 1786 et leur énième retour à la maison. Hélas, et malgré ce que leur père veut bien leur dire, les finances sont presque à sec. Le premier sacrifice sera donc les frais liés à la scolarité des filles. Pour Jen, c'est un nouveau départ qui s'annonce. Jen fréquente à ce moment de sa vie assidûment l'église. Elle est formée sous l'égide de son père qui, lui-même, éduque à l'époque des garçons de bonne famille. Et, fait rare pour l'époque, Jen a accès à la totalité de la bibliothèque familiale, y compris les ouvrages normalement réservés aux garçons. Ses frères, James et Henry, lui donnent à lire des collections complètes visant à parfaire une éducation pluridisciplinaire et ouverte sur le monde. C'est à ce moment que Jen, déjà attirée par les perspectives offertes par les pièces de théâtre, se décide à écrire ses premiers textes. Régulièrement, le soir après le dîner, elle lit à haute voix des textes de sa composition à sa famille qui l'encourage. La jeune fille s'inspire de la vie quotidienne au sein de la petite bourgade et des situations de vie de sa famille entre disputes, rabibochages et conversations d'adultes. Elle se plaît à exagérer les détails, à fantasmer des épisodes simples en les mettant dans un contexte totalement anarchique où la femme détient le pouvoir avec au cœur la bonne ambiance générale. Déjà, son style s'affirme. Son premier ouvrage complet, Love and Friendship, est une satire des romans à l'eau de rose que sa sœur adore. Nous sommes en 1790 et la future romancière n'a alors que 14 ans. L'enfance et son contexte permettent parfois la naissance de génies et Jen a certainement eu la chance de grandir dans un foyer ouvert d'esprit qui lui a donné toute la place qu'elle méritait. L'année suivante, un petit recueil en collaboration avec sa sœur qui dessine et qui parle de l'histoire de l'Angleterre est réalisé. Ainsi se forme la personnalité artistique de Jen au cours de son adolescence. Mais entre ses 16 et 18 ans, la période de la maturité artistique peine à voir le jour. Elle abandonne en cours d'écriture une pièce de théâtre et un ouvrage. C'est alors qu'elle parvient à terminer son premier travail épistolaire complet, Lady Susanne. Elle a 20 ans lorsqu'elle y met le point final et ce texte préfigure ses grands succès à venir. Le début de cette décennie est également le temps du premier amour. Elle rencontre un voisin en passe de devenir avocat à Londres. Mais la pression sociale, la perspective d'un mariage qui n'arrange aucune des deux parties et des difficultés annexes ont raison de cette idylle qui pourtant était très importante pour Jen. Cette déception amoureuse, là aussi, deviendra pour elle un moteur, comme si la mélancolie et le chagrin étaient pour elle de véritables carburants de création. Des abysses naissent parfois la lumière et Jen, torturée par le désir d'être célèbre, va s'employer à devenir celle qu'elle a toujours voulu être. Une autrice à succès.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H qui nous occupe porte sur un destin littéraire aussi romanesque que les œuvres de cette autrice à succès, Jane Austen, dont la main a signé Orgueil et préjugés. Son enfance, au cœur d'une Angleterre qui met l'accent sur l'éducation masculine, est totalement à contre-courant. Issue d'une famille plutôt aisée et éduquée, son père et ses frères lui permettent un accès à tous les livres et à toutes les matières qui peuvent l'intéresser. Une curiosité intellectuelle aussi vive ne peut que provoquer l'explosion d'un talent en émergence. Contes, poèmes, premiers ouvrages inachevés ou peinant à exprimer leur plein potentiel, le début de carrière de Jen se limite à des lectures le soir face à sa famille. Pour autant, tout juste majeure au début des années 1800, Elle va prendre le temps de peaufiner son style et les thèmes qui lui tiennent à cœur. Et alors que son pays est en guerre depuis des années contre la France de Napoléon, elle fait le choix de fuir cette actualité anxiogène et de faire passer des messages féministes. Le tout sous couvert de textes qui pourraient presque passer pour des œuvres légères et sentimentales. Elle n'a encore jamais été publiée alors qu'elle entre dans sa 32e année. Jane ne perd pas espoir. Et l'un de ses plus beaux textes s'apprête enfin à être récompensé. Son succès va se développer comme une traînée de poudre. Nous sommes le 11 octobre 1811. Il est à peine midi. Jane Austen, les larmes aux yeux, les mains tremblantes, sort de chez l'éditeur Thomas Egerton. Les rues de Londres, comme à leur habitude, sont bondées. Les calèches se croisent à toute vitesse. Les passants se saluent d'un trottoir à l'autre. Les vendeurs de journaux et autres colporteurs donnent de la voix. L'hiver arrive. La mauvaise saison apporte dans ses bagages le ciel gris et les températures sont déjà fraîches. Mais Jane, qui regarde un peu sonner les arbres ayant perdu presque toutes leurs feuilles, aime cette saison. D'ailleurs, elle parvient à trouver un avantage dans chacune d'entre elles. Et aujourd'hui est un jour dont elle se souviendra toujours. Elle va être publiée, enfin. Bon, le verre n'est pas complètement plein. Comme on attend des femmes à l'époque qu'elles soient avant tout de bonnes épouses et de bonnes mères, et certainement pas d'être écrivaines, elle s'est résolue à le faire de manière anonyme. Ainsi, elle est comme toutes ses comparses qui publient les yeux baissés. Il est tout de même hors de question de se faire passer pour un moustachu. Elle a donc signé par une dame, la grande classe. Le titre du roman, Raison et sensibilité. Une sordide affaire familiale à la suite du décès du paternel. Jane, elle aussi, vient de perdre son père. Ce livre, ce fut un peu le moyen d'exorciser cette perte, l'une des plus importantes de sa vie. Grâce à l'intervention de l'un de ses frères, un éditeur accepte enfin de prendre le risque de la publier. Enfin, prendre le risque. Marchant sur le trottoir humide du quartier voisin, Jane manque de glisser sur un pavé plus lisse que les autres. Soyons clairs, Egerton n'a pris aucun risque. Le roman est publié à la commission. En gros, tous les frais de publication sont à la charge de Jane et l'éditeur, publiant l'œuvre sous son nom et ses contacts, prélève 10% sur la vente de chaque exemplaire. Mais si la somme récoltée ne couvre pas totalement les frais engagés, c'est pour la pomme de l'écrivain. De Jane, donc, en l'occurrence. Mais bon, elle n'a pas eu le choix. Et en rentrant à pied chez elle ce soir-là, elle espère rendre fière sa famille et son père. Le clan Austin, lui, n'a jamais cessé de croire en elle. Sa famille a eu raison. Le prix est fixé à 15 shillings. Une somme pas si négligeable pour l'époque, qui correspond à une cinquantaine de livres à l'heure actuelle. Le papier utilisé est en effet de bonne qualité. Alors que cette situation aurait pu être un piège d'où Jane n'aurait pu s'extirper, c'est tout l'inverse qui se produit. Le contenu plaît, il plaît véritablement. Les coûts importants de production à l'époque empêchent les éditeurs de demander d'importantes quantités. En général, ça ne dépasse pas les 350-400 exemplaires. Austin rencontre un beau succès, puisque ce sont 750 ouvrages qui sont distribués pour son premier roman. Les jeunes faiseurs d'opinion de l'aristocratie de la capitale du pays se l'arrachent et les critiques sont favorables. Tous les signaux sont au vert pour en préparer un deuxième, d'autant que les 140 livres gagnés grâce à Raison et sensibilité, soit un peu plus de 11 000 livres actuels, lui accorde une indépendance presque totale. Elle s'affranchit de sa famille au niveau psychologique et financier et peut enfin prendre son envol. Ce premier succès attire les convoitises de l'éditeur qui propose à Jane un nouveau contrat. Pour le livre suivant, il lui propose de lui acheter les droits à hauteur de 110 livres, presque 8 000 actuellement. Une belle somme, allez-vous me dire. Mais son deuxième opus est « Orgueil et préjugés », qui devient rapidement un succès critique et commercial bien plus important que le premier. À la commission, elle aurait enregistré un bénéfice de plus ou moins 500 livres, le double de ce que son père touchait annuellement. Orgueil et préjugés, un classique du genre. Une magnifique interprétation de la société britannique du 19e siècle. Un moyen d'expression féministe unique en son genre et un livre dont l'intrigue a ému des millions de personnes et continue de le faire en 2022. Un chef-d'œuvre, si vous préférez, au sens le plus pur et le plus strict du terme. N'est pas question, malgré le mérite littéraire et la volonté de l'autrice, d'aller placer son nom sur la couverture. Jamais de son vivant, l'autrice ne verra son identité révélée. Elle doit donc, tout le long de son existence, faire face au double spectre de l'anonymat forcé. Certes, elle y gagne une relative tranquillité et reste à l'abri des scandales venant des milieux masculins. Mais à bien y regarder, ce n'est peut-être finalement pas à son avantage. L'utilisation d'un pseudonyme, qu'elle soit voulue ou contrainte, oblige à passer à côté d'une certaine forme de reconnaissance publique. Elle peut également craindre de perdre partiellement la paternité de ses œuvres, qui maintenant appartiennent à cette dame plus qu'à elle. Comme un deuxième auteur, un deuxième personnage. Sensible à la difficulté de la situation, l'éditeur propose à Jane d'ajouter sur chaque couverture à venir par l'auteur de raison et sensibilité. Un moindre mal. Les dents serrées, Austin se résout à accepter cette conséquence inévitable de son statut de femme. Et alors qu'au cours de l'été 1813, la première édition est déjà épuisée, l'éditeur en commande une deuxième à l'automne. Pour lui, ce bouquin, c'est la poule aux œufs d'or. En mai 1814, Jane passe en force et fait publier Mansfield Park, son troisième roman. Hors de question de se faire avoir cette fois. Elle demande à être commissionnée. La maison d'édition, consciente de l'arnaque précédente, accepte sans rechigner. Ignorée royalement par les critiques sur ce coup, les lecteurs se l'arrachent littéralement. Le résultat est limpide. C'est avec ce roman que Jane va gagner le plus d'argent, loin devant la somme acquise grâce à son chef-d'œuvre. Un comble. Des traductions, contre son gré, sortent en France. De pâles imitations, loin des textes originaux. La rançon du succès, certes, mais elle enrage, bien cachée derrière son pseudonyme. Bientôt, un courrier émanant de Buckingham Palace va réchauffer son cœur. Elle y apprend que le prince régent possède, dans chacune de ses résidences, tenez-vous bien, des exemplaires de ses ouvrages. Pour voir cette lettre très singulière arriver chez sa destinataire, l'éditeur a vendu la mèche sur son identité. Jane est rapidement invitée à visiter les collections royales. Elle est aux anges. Au milieu de contacts influents, avec en premier chef le bibliothécaire du prince, Mr. Clark. Ce dernier, apprenant que le roman Emma est en écriture, demande qu'il soit dédicacé au régent. Refus immédiat de l'autrice, certes embêté, mais ferme. Autant vous dire que la couronne n'apprécie que peu la méthode et se refuse à plus de soutien. Mais allez-vous me dire, pourquoi diable ce refus ? Jane n'aime pas la manière de vivre de ce prince régent aux allures de jet-setter. Et elle n'hésite pas à le faire savoir. Dans une volonté de gagner en indépendance, elle n'hésite pas non plus à claquer la porte de son premier éditeur pour se rendre dans une maison plus huppée et connue de Londres. C'est là que Emma sera publiée en décembre 1815. Une deuxième édition de Mansfield Park vient entacher le véritable succès de Emma. Alors que tout s'est vendu en décembre, la deuxième édition de Mansfield Park ne se vend que très peu. Ainsi, tout l'argent gagné grâce à Emma est quasiment perdu ensuite. Mais peu importe, la célébrité est totale et le succès est au rendez-vous. 1816 pointe le bout de son nez et tout semble indiquer que le ciel est au beau fixe. Tout ? Pas vraiment. Depuis quelque temps déjà, Jane commence à se sentir mal. malade. Mais pas une maladie comme un rhume pourrait vous embêter pour quelque temps, non. Non, elle se sent profondément atteinte. Un voile s'abat sur elle, déjà comme une mauvaise prémonition dans la nuit. Seuls ceux qui ont déjà traversé ces moments peuvent les décrire. Un jour tout va bien et puis c'est l'effondrement. Progressif, insidieux. Les textes qu'elle écrit sont moins prenants. La fatigue se fait sentir. Les pores de sa peau ne peuvent évacuer le mal-être qui gagne du terrain. Les cellules de son corps, cette formidable armée en formation, n'arrivent pas non plus à canaliser cet ennemi invisible qui gagne du terrain sans jamais en céder. Les premières lignes reculent. C'est la garde de Napoléon à Waterloo. Tout semble se maintenir un temps, mais comme des vagues successives, de nouvelles attaques viennent avec vigueur entamer la joie de vivre et les rêves qui pullulaient il y a peu encore dans cet esprit si génial qui est le sien. Rien n'y fait. La chute est consommée. C'est comme une tragédie grecque dans un paysage de campagne anglaise, accompagnée d'une tasse de thé. Mais le résultat est là, tout aussi terrible, impitoyable. La mort déjà est en chemin. Et Jane ne peut rien y faire. Si ce n'est constater les alertes rouges que son organisme lui envoie coûte que coûte et par tous les moyens. Elle se décide à se reposer, estimant que ces crises répétitives ne sont que passagères. Mais il n'en est rien. Et rien ne semble non plus pouvoir contrecarrer les plans du destin qui vient de la condamner à mort. Elle voudrait s'y opposer, mais en est incapable. Comme si la vie, déjà, s'évaporait de tout son être.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H parcourt la vie de celle qui a écrit les célèbres ouvrages « Orgueil et préjugés » ou « Emma » Jane Austen. Après une enfance rodée à l'écriture de premiers textes, il lui faut attendre la trentaine pour voir les premières publications sortir via une maison d'édition. Signée anonymement, ses livres se vendent bien et plaisent à tous les milieux de la société, jusque dans les couloirs de Buckingham Palace. Tout semble lui sourire. Sa carrière est maintenant lancée et rien ne semble pouvoir arrêter une ascension aussi fulgurante que rare pour une femme à l'époque. Les hommes dominent encore toutes les strates de la société en Angleterre. Mais, comme il se plaît souvent à le faire, le destin l'attend au tournant. Au milieu de l'année 1816, Jane commence tout doucement à se sentir faible par moments. Quelle est cette étrange maladie qui l'assaille? Elle mise au départ sur un coup de froid qui s'éternise. Il n'en est rien. Le mal qui s'empare d'elle, cellule par cellule, organe par organe, lui prend en fait la main pour la conduire inlassablement vers la faucheuse. La grande dame encapuchonnée ricane et l'attend. Nous sommes le 7 mars 1816. Il est 14h20. Jane a justement reçu un courrier qui lui fait subir un énorme choc émotionnel. La banque de l'un de ses frères a fait faillite. Alors même que la dernière version de Emma vient de partir chez l'éditeur, c'est une catastrophe sans précédent qui s'abat sur les Austin. La plupart des membres de la famille, mais pas Jane, ont des actifs dans cette structure. Ils perdent tout, ou presque. Son frère est démuni au possible et tombe profondément malade. Il manque de mourir dans les semaines suivantes. Le cocktail Molotov formé par ces deux traumatismes, la faillite de sa famille et la maladie de son frère provoquent chez Jane un véritable cataclysme. Des symptômes divers, irréguliers au départ, s'installent entre nausées et migraines. Elle a des rhumatismes, fait de la bile. Au début de l'été, la dégradation est déjà importante et lentement, l'autrice s'enfonce. Sa famille est démunie et les nombreux médecins qui l'auscultent ne savent pas quel est ce mal qui l'assiège. Dans une lettre, à l'une de ses nièces, elle écrit ceci. « Un grand merci pour les bons soins que vous portez à ma santé. Je n'ai certainement pas été bien pendant de nombreuses semaines et il y a environ une semaine, j'étais très mal. J'ai eu beaucoup de fièvre par moments et des nuits indifférentes. Mais je vais considérablement mieux maintenant. Et je retrouve un peu mon apparence qui a été assez mauvaise, noir et blanc, et toutes les mauvaises couleurs. Je ne dois pas dépendre d'être à nouveau très épanoui. La maladie est une indulgence dangereuse à mon époque de la vie. J'habite à l'étage pour le moment et je suis choyé. Je suis la seule du groupe à avoir été si stupide, mais encore faible, dois excuser des nerfs faibles. Ces rares visites chez des amis sont alarmantes pour tous. Elles parlent déjà comme si elles n'étaient plus de ce monde. Ces lettres prennent un tour beaucoup plus triste. Elle retourne à la fin de l'été dans l'ancienne maison dans laquelle elle a grandi à la campagne et travaille à son nouvel ouvrage, Persuasion. Mais sa faiblesse est grandissante. L'ouvrage est néanmoins terminé début septembre. Ce sera son dernier. Une énième affaire familiale provoque une rechute. À sa mort, son oncle, qui a pourtant des sous plein les poches, les déshérite tous. Catastrophe ultime pour cette fratrie en quête d'argent frais. Jen, rapidement, réagit très mal à la nouvelle. Elle ne peut plus marcher. Son hiver se passe mieux, mais dès le printemps 1817, son état se détériore de nouveau. L'une de ses nièces raconte. « J'ai été frappée par l'altération en elle-même. Elle était très pâle, sa voix était faible et basse, et il y avait autour d'elle une apparence générale de débilité et de souffrance, mais on m'a dit qu'elle n'avait jamais eu de douleur aussi aiguë. Elle n'était pas à la hauteur de l'effort de nous parler, et notre visite à l'infirmerie fut très courte. Tante Cassandra, nous emmenant bientôt, je ne suppose pas que nous restions un quart d'heure, et je n'ai jamais revu Tante Jane. Cette fois, la grande romancière ne pourra reprendre le dessus, et, comme nous l'avons déjà vu, elle meurt le 18 juillet 1817, à l'âge de 42 ans. Mais de quoi ? Jane Austen était une hypersensible à un degré si élevé que chaque perturbation, chaque petit détail de l'existence, qu'il soit négatif ou positif, venait la frapper de plein fouet. Les différentes catastrophes familiales ont accéléré le mal qui l'a assailli et dont on ignore à l'époque le nom. Certains médecins contemporains se sont penchés sur la question. Et leur réponse est unanime. La romancière était atteinte de la maladie d'Addison, qui provoque insuffisance surrénale. Vitiligo, perte de poids, nausées, anxiété, dépression, malnutrition et fonte musculaire. Tout y est. Pour autant, c'est la combinaison d'une autre maladie qui la pousse dans les bras de la mort. Un lymphome de Hodgkin. Un cancer agressif, si vous préférez. On peut tout de même se demander si ce n'est pas l'hypersensibilité accrue de cette autrice talentueuse qui aurait provoqué l'apparition de ces maladies, exacerbées par son anxiété. Quoi qu'il en soit, Jane n'aurait pas pu s'en sortir. Le mal, rapidement, était devenu trop profond. Austen est enterrée grâce aux relations de son frère sur le côté nord de la cathédrale de Winchester et sa fratrie organise peu après sa mort la sortie des romans en cours. Pour la première fois, elle est mentionnée comme autrice de manière explicite. Quoi qu'il en soit, les textes et le style d'Austen s'inscrivent dans l'histoire littéraire du pays. Celle qui critique les romans sentimentaux en vogue à l'époque est également une pionnière du réalisme littéraire à venir en Angleterre et incarnée notamment par Sir Walter Scott. Ses intrigues, quasi systématiquement, mettent clairement en exergue la dépendance traditionnelle des femmes dans l'institution du mariage qui leur assure une sécurité économique et un statut social. Avec Jane Austen, tout est combat sans en avoir l'air, à l'image au fond de cette hypersensibilité qui la caractérise, qui participa à forger son talent et, à contrario, à la pousser vers la mort. Jane Austen, c'est une certaine idée de l'Angleterre, une certaine idée de la littérature, une certaine idée des rapports humains, le tout avec standing et émerveillement. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter sur une citation d'un génie, le grand Léonard de Vinci. Auteur de carnets restés célèbres, le grand inventeur a gardé pour les hypersensibles un mot, puissant de sens pour ces gens qui vivent leurs sensations chevillées au corps. Plus grande est la sensibilité, plus grand est le martyre. Pour Jane Austen, c'est criant de vérité. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la très belle plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.